Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Aujourd'hui, votre émission quotidienne, locale et associative a le plaisir de recevoir Louis Tessédou, professeur de lettres et d'histoire au lycée Édouard Gans et porteur d'un projet de vulgarisation scientifique autour de l'usine de tissu Cossera, située dans le quartier Montière à Amiens. Il est venu nous présenter son travail ainsi qu'une conférence autour de Cossera qui aura lieu aux archives départementales de la Somme le mardi 15 novembre 2022. Bonjour Louis.
Bonjour.
Tout d'abord, pourriez-vous revenir sur l'histoire de ce site exceptionnel qu'est Cossera ?
Alors, le site Cossera de Montière, puisqu'au final, il y a deux sites Cossera sur Amiens Métropole. On a la première usine qui a été créée dans les années 1830, qui est à Saleux. Aujourd'hui, on va parler de celle qui est à Amiens, dans le quartier Montière, qui a été construite sur les anciens terrains de l'évêque d'Amiens par Eugène Cossera et qui, de 1857 à 2008-2012, a produit l'un des plus beaux velours de France, voire d'Europe.
C'était une particularité amiennoise, en fait. Hein. C'était une exception amiennoise.
Oui, ouais. Amiens est la terre du velours. Vraiment, c'est un velours assez exceptionnel.
Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire aussi de la famille qui est derrière Cossera ?
D'accord.
Parce que Cossera, c'est un nom de famille aussi.
Finalement. Oui, c'est un nom de famille. C'est une famille. L'entreprise est familiale jusqu'en 1965. Pierre Cossera, c'est un Lorrain qui arrive en 1794 à Amiens et qui va épouser la fille d'un commerçant de textile. Il ne fait pas encore de velours. Et c'est son fils Eugène qui va se lancer dans la fabrication. Pierre Cossera, le fondateur de l'entreprise, est que commerçant. Et Eugène Cossera, au départ, fait du lin. Saleux, l'usine qui existe encore aujourd'hui, était dans le lin. Et il avait une usine de textile dans Saint-Leu. Il va vouloir s'agrandir. Il y a des problèmes de pollution industrielle, ce qui fait qu'il s'établit à Montière. Et aujourd'hui, on connaît un site qui a 3 hectares de bâti. Et qui est plutôt la réalisation de son fils Oscar Cossera, c'est la troisième génération, avec la famille de Monclos, qui était une famille d'architectes, qui ont bâti ce site qu'on connaît aujourd'hui.
Justement, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce site et éventuellement nous dire dans quel état il se trouve actuellement ?
Ouais. Alors aujourd'hui, on a un site de 13 hectares en tout, on a 3 hectares de bâti. On est sur il est à cheval sur les deux rives de la Selle, puisqu'on a la Selle qui passe à Amiens et qui rejoint la Somme à la fin du quartier de Montière. Bah, quand on rentre sur le site, on rentrait, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de travaux, on rentrait un peu dans le 19e siècle il y a encore quelques années, puisqu'on a des bâtiments qui sont debout depuis 1857. On a un monument aux morts dédié à Jean Cossera et aux soldats morts pour la France qui étaient employés chez Cossera. On a 2 baraquements américains de la Première Guerre mondiale. On a la cathédrale, qui est la salle des machines, qui est un palais industriel. Et on a un site où toutes les façades sont encore debout.
On comprend en fait un site qui regroupe beaucoup de périodes historiques
ouais.
aussi différentes.
Bah, les Cossera ont eu énormément de chance, c'est qu'ils avaient beaucoup de place et ils n'ont jamais rien cassé. Et dès qu'ils avaient un nouveau besoin industriel, ils construisaient. Donc ça fait beaucoup de jaloux en industrie, c'est qu'ils avaient beaucoup de place. Qu'ils avaient un certain goût architectural qui fait qu'on a un site dont on a 35 ou 40% des bâtiments dont les façades sont classées au titre des monuments historiques. Et on a, on a aujourd'hui un site qui est grand, puisque pour faire du velours, il fallait 45 étapes. On peut suivre la route du velours sur le site de l'usine, comme c'est un tissu qui est extrêmement complexe à faire.
À l'âge d'or de Cossera, est-ce qu'on sait combien d'ouvriers pouvaient travailler sur l'usine ?
On a sur le site d'Amiens, c'est 1100 employés, sachant que c'était une ville dans la ville, puisque Cossera faisait tout. Ils avaient leur charpentier, leur maçon, leur mécanicien. Donc on a au final une usine qui est assez cachée, qu'on voit vraiment qu'au dernier moment et qui était totalement autonome.
Depuis plusieurs années, vous accordez beaucoup de temps à Cossera et donc on le sent aussi dans le propos, voilà, il y a une réelle passion, un réel intérêt derrière. Comment s'est fait la rencontre avec ce site ?
Tout bêtement, ma compagne est médecin généraliste à Amiens et elle avait des patients sur l'île Saint-Aragone. Et on s'est promené à...
Qui est de l'autre côté de Cossera.
Oui, voilà, c'est l'autre côté, ouais, c'est la fin du quartier de Saint-Maurice. Et à part être médecin généraliste avec des patients sur l'île Saint-Aragone ou maraîcher, c'est un quartier qui est quand même assez méconnu dans Amiens. Hein. C'est les ortillonnages sans être les ortillonnages, entre guillemets. Et on s'est promené et c'était en 2012. 2013, et Cosra venait de fermer. Et moi, je ne connaissais absolument pas Cosra. On est rentré sur le site. Tout était encore, évidemment, impeccable. Il y avait le gardien qui était là. On a visité et c'était extrêmement surprenant de voir une telle usine en ville.
Donc, on le comprend, il y a cette rencontre avec Cosra. Et derrière, en fait, directement, vous avez décidé de mettre en valeur ce site et notamment en fait, de le mettre en valeur avec le public auprès duquel vous travaillez, les jeunes, les lycéens, les élèves. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les différents projets que vous avez montés avec eux, mais aussi après nous présenter, pourquoi pas, les projets hors scolaires aussi éventuellement?
Alors, il y a 3 ans, moi, j'ai fait écrire à mes élèves un livre d'histoire via les archives départementales. C'était un projet de confinement, puisque c'était le confinement, c'était post-confinement. Et on a fait un projet entre le lycée, les archives et l'usine. Donc, on avait un petit triangle de quelques kilomètres et on a créé un livre. On n'avait jamais prévu, c'est d'en vendre autant.
Oui, il y a eu un réel succès, il faut le redire, hein, vraiment. Ça a créé, il y a eu un engouement autour de ce livre assez impressionnant.
Il y a plusieurs bac pro qui ont travaillé ensemble. Il y a eu le livre, il y a eu une surcouverture de velours faite par des bac pro. Moi, je suis au lycée Édouard Gand, mais ça a été fait par le lycée, les bac pro métiers mode du vêtement du lycée Branly. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel engouement populaire et médiatique, parce qu'on a eu la visite de médias nationaux. Et puis, c'est tellement immense qu'on a décidé de continuer l'année dernière en faisant une exposition avec le service culture et création de l'Université d'Amiens, qui a réuni des étudiants en art, des élèves de lycée professionnel, donc des gens qui ne sont pas censés se rencontrer, qui se rencontrés et qui ont exposé ensemble, où on a eu aussi pas mal de succès. Donc, on continue cette année avec un défilé de mode qui va être organisé en mai-juin 2023 par les élèves. On a des étudiants dans le supérieur qui travaillent sur le fonds Cosra, puisque les archives sont enfin disponibles. On a 80 mètres d'archives, on a 200 ans d'histoire industrielle aux archives départementales de la Somme. Les boîtes, j'ai commencé à en ouvrir moi la semaine dernière. On a donc toute l'histoire d'Amiens qui est enfermée. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Alors justement, il y a une démarche historique derrière et j'aurais voulu vous demander, est-ce que vous vous considérez comme un historien?
Oui, parce que j'ai les méthodes de l'historien.
La formation aussi finalement.
Vous formation, êtes sur voilà, on travaille sur des sources. On travaille sur une mémoire auquel on confronte les sources, donc tout est une question de méthode, et puis le travail est relu par des enseignants. Je ne suis pas tout seul dans le navire, donc travail historiquement rigoureux, sauf qu'on découvre plein de choses.
Est-ce qu'il y a des universitaires académiques, enfin des universitaires actuellement, des historiens universitaires qui travaillent aussi sur le sujet Cosra, ou vous êtes pour le moment le seul à travailler sur ce sujet?
Non, il y a Philippe Nivet qui est enseignant à l'UFR, ou professeur, pardon, à l'UFR d'histoire d'Amiens, qui se penche sur le sujet. Il y a Nicolas Offenstadt qui est professeur à la Sorbonne, qui est venu faire de l'Urbex avec moi et qui en parle. Et puis il y a Florence Haché-Leroy qui est professeur d'histoire contemporaine à Arras et présidente du CILAC, qui travaille aussi avec moi sur le sujet. Plusieurs universitaires.
Donc finalement, votre rôle à vous d'historien, c'est de pousser un petit peu ce sujet dans l'espace public, j'imagine.
Oui, parce que on a un triangle fabuleux. On a une mémoire en ville avec tous les anciens, qui ont entre 40 et 95 ans. On a 80 mètres d'archives et 200 ans d'histoire industrielle sur une même entreprise, c'est inédit. Et puis, on a un site qui aujourd'hui est à la confluence de son histoire, avec le rachat en partie par un promoteur immobilier, une réutilisation du site où il y aura des logements, et c'est ainsi. Mais on peut espérer peut-être un petit quelque chose de culturel sur le site.
C'est ce que j'allais dire, mine de rien, en fait, c'est une mine patrimoniale, historique, culturelle.
On peut tout faire,
c'est impressionnant.
Ouais, on peut faire du tourisme de mémoire avec le monument aux morts, les baraquements américains, tourisme architectural, tourisme de savoir-faire, tourisme même...
Sur l'histoire ouvrière aussi.
Sur l'histoire ouvrière, on a évidemment...
Industrielle, économique.
Toute l'histoire ouvrière est à faire. Et puis du tourisme vert, puisqu'on est près de la véloroute, on est près de l'île Saint-Aragone. Donc on a un champ des possibles assez important.
C'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais que ce soit cette zone de Montières, ou même Haye-sur-Somme, ou même Flixecourt, en fait, c'était des endroits où il y avait énormément d'ouvriers avec une culture aussi très très prononcée finalement.
Oui, ouais, tout à fait. Et puis on peut faire le lien entre les différentes entreprises, hein, car Michael, la comptabilité était faite chez Cosra. Les archives Carmichael ont été retrouvées il n'y a pas très longtemps. On a les archives de l'arrivée des Écossais à Ilye-sur-Somme. Bon, Saint-Frère, c'est un peu plus documenté, mais en tout cas, il y a une mise en réseau avec... voilà, il y a Cosra, c'était comme ça, mais comment c'était chez Saint-Frère, comment c'était chez Carmichael, il y a toute une étude comparative à mener.
Alors, le mardi 15 novembre 2022, vous animez une conférence intitulée « Les métiers, la jeunesse et Cosra » aux archives départementales de la Somme. Comment avez-vous eu accès à ces archives ?
C'était une demande des archives départementales de faire une conférence sur Cosra. De toute façon, ce n'est pas très compliqué. Aux archives, grâce à Ludovic Klavinski qui a répertorié et inventorié tout le fonds Cosra, on sait à peu près où on met les pieds. Il y a le fonds Cosra, mais il y a aussi tous les fonds annexes, hein, les fonds préfecture, de l'éducation nationale, de l'inspection du travail. Donc, il y a différentes choses qui existent. Et puis, il faut essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc moi, là, il y a trois pôles sur la jeunesse où on a... Cosra, on est sur du paternalisme chrétien. Hein. C'est des gens qui étaient extrêmement pieux et catholiques et qui ont développé une économie sociale fortement teintée de religion. On a une jeunesse qui se rebelle, hein, puisqu'on a des grèves chez Cosra avec des leaders qui sont assez jeunes. Et enfin, une jeunesse... entre guillemets, sacrifié, ou la jeunesse qui part à la guerre en 1914, puisqu'on a un monument aux morts, où on a 54 noms d'ouvriers Cosra qui sont morts pour la France. Et ce monument est dédié également à Jean Cosra, qui était le fils du patron de l'usine en 15, et qui est mort aux éparges.
Donc on le comprend encore une fois, en fait, Cosra, c'est des super départs de pistes presque pour un historien finalement. Quoi. C'est des débuts de pistes et il n'y a plus qu'à les suivre.
Ah, par exemple, là, moi, la découverte de cette semaine, c'est Jean Cosra donc, est mort le 26 avril 1915 aux Éparges, qui est une bataille assez célèbre. Et on s'aperçoit qu'à côté de lui, on a Maurice Genevoix, hein, qui a écrit Ceux de 14. Et en face, dans la tranchée allemande, il y a Ernst Jünger. Donc, là, j'ai réussi à récupérer les lettres que Jean Cosra écrivait à ses parents, grâce à la famille. Mais voilà, et puis on a 54 noms qui ressurgissent avec, on a les dates, les lieux de décès. Donc, on va faire une sociologie du combattant, entre guillemets, Cosra, qui est mort plus jeune que la moyenne, qui est plutôt dans l'infanterie que l'artillerie. Enfin, voilà, il y a tout un tableau à établir.
Alors, ces archives étaient déjà accessibles ou alors elles ont été mises à votre disposition?
Non, elles étaient à... Alors, c'est Ludovic Klavinski qui le dirait mieux que moi, qui est archiviste aux archives départementales de la Somme, qui a été les chercher il y a une quinzaine d'années maintenant. Elles étaient à Saint-Riquier, elles étaient conservées à Saint-Riquier et elles ont été rapatriées sur le site amiénois et elles ont été inventoriées.
Quel type de documents va-t-on trouver dans ce fonds d'archives ?
On a des livrets d'ouvriers, on a les registres du personnel. Moi, j'ai travaillé sur les registres des enfants qui travaillaient dans les entreprises Cosra au 19e siècle. On a des choses relatives à la mode, on a des choses relatives à la guerre, on a les dommages de guerre, puisque l'usine a été bombardée en 18, mais on a uniquement un bâtiment qui a été détruit. Après, c'est la cité ouvrière qui a été détruite sur les pourtours de l'usine, mais on a les dommages de guerre. On a, en fait, c'est une espèce de couteau suisse monumental où on peut aller chercher de la guerre, on peut aller chercher de la sociologie. On a l'histoire industrielle avec les brevets, on a les relevés de paye, on a les soucis avec les grévistes. Enfin voilà, on a énormément de choses.
J'imagine qu'il y a aussi encore des documents parce que l'usine a fermé il n'y a pas si longtemps que ça en soi. Au regard de l'histoire, il y a sûrement aussi des documents qui ne sont pas encore des archives finalement auxquelles on n'a pas accès.
Alors, je ne suis pas le plus fort pour parler des choses auxquelles on n'a pas accès parce que bon, il y a des archives de 1950, 1960, 70, 80. Il y a des choses. Donc là, plus on s'approche du temps présent, plus les témoins sont évidemment vivants. Après, ouais, tout est une question de méthode et d'entretien et de comment on parle des choses qui se sont passées. Mais on a on a des archives qui sont extrêmement, extrêmement récentes.
On comprend, voilà, une mine d'informations, de savoir et d'histoire. Merci beaucoup, Louis, d'être venu et nous présenter cette conférence et aussi le projet Cosra.
Merci beaucoup.
Merci, Louis. Pour rappel, la conférence autour de Cosra aura lieu aux archives départementales de la Somme le mardi 15 novembre 2022. Découvrez ce lieu exceptionnel du patrimoine industriel et ouvrier à Amiens. La conférence porte sur le sujet de la jeunesse ayant travaillé à Cosra. Quant à nous, on se retrouve dès demain à midi.